Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ingénieur Avenir. Aujourd'hui, je reçois Thomas Rabat, un jeune ingénieur maintenance à la SNCF. On va parler de sûreté ferroviaire, de train-usine et de travail de nuit. Bonne écoute! Alors, bonjour Thomas et bienvenue dans le podcast Ingénieur Avenir, ça va ?
Ça va bien et toi ?
Nickel, merci et surtout très heureux de te recevoir dans le podcast. Alors Thomas, tu as 25 ans et tu as été diplômé du département génie civil et urbanisme à l'INSA de Lyon en 2020. Et depuis 3 ans, tu es ingénieur travaux et maintenance pour la SNCF à Paris. Alors avant de nous parler de ton métier précisément, est-ce que tu peux nous décrire en gros l'organisation de SNCF Réseau pour qui tu travailles et où est-ce que tu te places au sein de cette organisation ?
Alors SNCF Réseau, c'est le gestionnaire infrastructure et circulation, etc. du réseau ferré français. Donc nous, notre cœur de métier, c'est de commercialiser des sillons. Les sillons, c'est en gros pour faire passer un train d'un endroit A à un endroit B, il faut on appelle ça un sillon en gros, le passage du train et ce délai pour passer. Et du coup, ça va de fournir les sillons à SNCF Voyageurs pour qu'ils puissent faire circuler ces trains maintenant, deux entreprises comme Transitalia, etc. Et assurer la maintenance. Et du coup, moi, je suis dans la partie maintenance. Et la maintenance, elle se sépare par zone géographique, par infrapôle.
Ok. Alors, c'est quoi ce que tu appelles infrapôle, c'est la zone géographique, du coup. C'est ça ?
C'est ça.
Ok. Et toi, tu es sur quelle zone ?
Sur Paris Sud-Est. Donc, ça va de Paris même, Paris-Gare de Lyon. Et ça va jusqu'à Auxerre, Gien, Nevers. Enfin, quand même... un peu plus au sud que l'Île-de-France.
Et pour se faire une idée, il y en a combien des pôles comme ça en France ?
Alors en Île-de-France, il y en a déjà 4 et après, on doit être sur une vingtaine, je pense.
Ok, ouais, ça donne une idée de la taille des zones déjà. Et tu parlais de sillon, pour que ce soit bien clair. Donc un sillon, c'est une voie ferrée sur un temps donné, c'est bien ça ?
C'est ça. En gros, c'est le passage du train. Ouais, c'est le passage de Paris à une autre gare. C'est d'une gare à une autre gare. Et donc, c'est la traversée de cette gare à l'autre.
Ok. Et donc chez SNCF Réseau, donc, comme tu as dit, vous gérez toute l'infrastructure. Il y a des gens qui s'occupent de l'allocation de ces sillons, de dire un peu, est-ce que c'est un peu comme une tour de contrôle dans un aéroport, par exemple, s'assurer que les gens ne vont pas se rentrer dedans les uns les autres ?
Alors, c'est pas géré comme ça, le risque de collision. Enfin, je sais pas si tu as suivi, il n'y a pas longtemps, il y a eu justement une collision en Grèce. Et en fait, l'allocation des sillons, ça se joue 4 ans avant, voire un peu plus, notamment quand on pense au JO ou ce genre de choses, on prévoit largement en amont la programmation qu'il va y avoir et du coup les trains qui circuleront. Donc c'est pas comme ça que c'est géré vraiment les risques de rattrapage ou de collision qu'il peut y avoir. Ça sera plus des conditions techniques. C'est-à-dire que quand le train passe à un endroit, il sera visible par l'agent de circulation et par un ensemble de choses qui vont faire que ça protège l'arrivée d'autres trains sur sa zone.
Et donc, ok, j'ai bien compris. Donc, pour reprendre SNCF Réseau, c'est des voies ferrées partout. Je suppose plein d'autres installations qui permettent à tout ça de fonctionner. Vous allouez les sillons, donc des temps de trajet aux différentes compagnies ferroviaires qui peuvent les utiliser. Et toi, tu as dit que tu étais plutôt dans la maintenance dans tout ça, c'est ça ?
C'est ça, la maintenance des voies ferrées et particulièrement dans la maîtrise d'œuvre, travaux de renouvellement des voies. Donc, c'est-à-dire les appareils qui arrivent en fin de vie ou les tronçons de ligne qui ont déjà un certain âge. Là, je viens pour les régénérer.
Ok, alors pour être précis, du coup, c'est quel type de matériel que tu vas renouveler, toi? Enfin, je veux dire, pas, enfin, que qui appartiennent à SNCF Réseau et que SNCF Réseau renouvelle.
Bah, toute l'infrastructure ferroviaire et SNCF Réseau, ça va de la caténaire en passant par les rails, les traverses, le ballast. S'il y a un remblai ou un déblai pour le nivellement ou des choses comme ça, là il y a toutes ces infrastructures, ou les ouvrages d'art, les ponts, etc.
D'accord, ok. Donc ça c'est. Est-ce qu'il y a des installations aussi, je sais pas, tu as déjà dit les caténaires, mais dans le plus électrique, électronique, je sais pas, des systèmes de communication, la signalisation, tout ça,
Alors,
c'est vous aussi qui
oui,
gérez?
il y en a énormément. Donc, moi, je suis dans la partie voie, donc c'est plus le reste, les gros ouvrages, etc. Mais il y a une partie qui est uniquement dédiée à ce qu'on appelle SES, donc tout ce qui est signalisation électrique et système. Et ça comprend notamment tout ce qui est tous les systèmes qui permettent la signalisation et le fait qu'on n'ait pas des accidents ferroviaires, le rattrapage, le fait que des trains viennent en collision, tout ça c'est des systèmes électriques, c'est-à-dire c'est le fait que le train, quand il est sur une voie, il chante les deux fils de rail, et du coup il actionne des
Alors,
signaux.
attends. Chanter et des fils d'oreilles, qu'est-ce que c'est?
Le chanter, c'est le fait de créer une connexion électrique entre les deux fils de rail. Une voie ferrée, c'est deux rails, deux fils de rails.
Ah oui. Ok.
Et du coup, quand le train il est présent, il vient court-circuiter le circuit de voie, enfin court-circuiter un circuit de voie qui est présent. Et donc, du coup, on voit sa position parce qu'il chante l'endroit, enfin parce qu'il vient faire un court-circuit.
Ok, est-ce que ça veut dire qu'en temps réel, on peut savoir où se situe n'importe quel train sur la voie ferrée?
Alors, c'est plus des conséquences, c'est-à-dire que quand le train va être sur une zone, il va la faire chuter, on appelle ça, il va faire chuter le relais. Donc automatiquement, ça va actionner des signaux, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on sait précisément où il est à chaque instant. Ça, il y a d'autres systèmes qui permettent de le savoir, mais les systèmes de sécurité, c'est surtout pour le protéger du fait qu'il y a un autre train qui arriverait derrière lui, etc. C'est vis-à-vis des installations.
Pour revenir à ton travail à toi, donc tu parlais de maintenance et plutôt donc de maintenance des éléments, je sais pas comment on peut dire, des éléments en génie civil, des voies. Alors, est-ce que tu peux y revenir?
Du coup, ouais, ça se sépare on va dire en deux grosses catégories. Il y a tout ce qui est ouvrage en d'art et ouvrage en terre. Donc tout ce qui permet de pouvoir mettre la voie, donc dans une certaine géographie ou avec je sais pas, une autre route et ce genre de choses. Et après, il y a les constituants de la voie elle-même qu'on vient remplacer. Donc il y a les traverses qui peuvent être en bois ou en béton. Il y a les rails et le ballast, qui sont les cailloux dans la voie.
Ok, d'accord. Et ben, comment ça se passe, toi, du coup, à quel niveau t'agis là-dessus? Est-ce que t'es sur l'organisation des travaux? Est-ce que t'es sur les travaux eux-mêmes?
Donc moi j'ai la chance d'être responsable de l'eau aux travaux. C'est vraiment le suivi, l'organisation et à la fin la réception et la restitution de la voie. Donc je travaille vraiment de la phase prépa, c'est-à-dire préparer le chantier, savoir comment on va s'organiser, choisir l'entreprise, etc., jusqu'à la réalisation des travaux. Donc savoir, je sais pas moi, si la qualité de ce qui a été fait est acceptable, si c'est dans les conditions qu'on attend pour la vitesse qui va être que les trains vont avoir à la fin, sur cette
Ok.
voie et ce genre de choses.
Ok. Ah ouais, donc tu gères vraiment enfin la chaîne de bout en bout, quoi. C'est toi qui, par exemple, qui fait qui envoie les appels d'offres, qui fait
Bah
passer.
après, ça reste quand même très séparé, hein. Alors souvent, on participe, on peut pas faire tout à 100%, ça dépend vraiment de la taille des projets et c'est variable, hein. Des fois, on a ce qu'on appelle des suites rapides, c'est-à-dire des trains travaux qui vont remplacer énormément de quantité, c'est-à-dire ils vont faire vraiment beaucoup de kilomètres, parce que c'est des trains usines en soi, donc ils font beaucoup. Et là, pour le coup, c'est vraiment des cellules entières qui préparent l'appel d'offres, etc. Et là, c'est des pôles entiers. Mais il y a des chantiers qui sont beaucoup plus petits, qui font la taille d'une dizaine de mètres ou des fois moins, qui sont plus complexes à organiser et qui demandent plus d'agilité. Et là, ce sera à nous de trouver, enfin, ce sera à nous, à moi de trouver l'entreprise, le mode opératoire, etc. Donc ça dépend vraiment la taille du projet, ça dépend à quel point il y a du monde dessus, etc.
Ok. Et juste sur les trains-travaux, j'ai une. Je pense que je vais la mettre en description, mais il y a une vidéo de Monsieur Bidouille sur des. Un mec qui fait de la vulgarisation technique sur YouTube sur les trains, justement, qui changent du ballast ou des traverses en avançant, quoi. C'est vraiment un truc de psychopathe, j'adore ça. Et du coup, bah, je sais pas, est-ce que tu pourrais, genre, nous décrire. Comment dire, une mission, enfin un chantier que t'as eu à faire ou que tu pourrais avoir à faire, un chantier un peu typique depuis le début, depuis le moment où on te dit bah là faudrait refaire le ballast sur tel endroit de la voie jusqu'à la fin, le truc réalisé, fonctionnel.
Bah alors du coup oui, si tu veux, je peux te décrire un chantier que j'ai eu qui est justement avec un train usine, qui est donc c'est le premier que j'ai eu à faire. Donc c'est ce qu'on appelle un BOA, c'est le nom du train. Et en fait, il a la particularité de directement mettre les rails à température. Et là, je vais pas être très clair, mais en gros, on a une vision un peu classique de penser que le train, quand on est dans le train, ça fait clac 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 clac. Et si tu as l'occasion de prendre le train, tu te rends compte que tu l'entends plus, le clac 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 clac, sauf en zone de gare. Et du coup, en fait aujourd'hui, les rails, ils ont plus autant d'éclisses qu'avant. On n'éclisse plus autant, on met plus des barres de 36 mètres attachées les unes des autres mécaniquement. Maintenant, ce qu'on fait, on soude les rails. On appelle ça des longs rails soudés. Et pour absorber la dilatation, on est obligé de mettre une. On le met à une température d'allongement, le rail, en tirant dessus ou en le chauffant. Et pour qu'il puisse absorber les déformations dues à la dilatation lorsqu'il fait chaud ou lorsqu'il fait froid. Ça nécessite des calculs, etc. Mais en gros, on sait mettre le rail à 25 degrés. Et ce train a la particularité de faire les soudures entre des barres de 108 mètres. Et en plus, de mettre directement à 25 degrés. Donc pour nous, après, il nous reste plus grand-chose à faire. Et ça, c'est plutôt bien, parce qu'on dit qu'il est libéré, donc il est directement à 25 degrés. Donc j'ai eu la chance d'être sur un chantier de BOA. Donc quand on récupère le chantier, en fait, il vient d'être. On sait déjà la zone est déjà prédéfinie, parce qu'il y a une entité maintenance qui a un besoin, qui décrit son besoin, qui le transmet à une cellule qui va être là juste pour préparer et dire bon bah financièrement vaut mieux le mettre là, ce sera rentable si on le met de tel kilomètre à tel kilomètre, etc. Et donc du coup nous on doit planifier et organiser les travaux. Donc c'est une circulation ce train, donc il faut prévoir des sillons pour amener ce train jusqu'au chantier et mettre les moyens de protection, parce qu'en soi on travaille sur des voies où il y a de la circulation, où il y a des circulations, donc on doit aussi se prémunir du risque de se faire écraser par un train. Ça semble bête, mais c'est toujours particulier de travailler sur des voies ferrées parce qu'il y a un vrai risque. Donc, quand c'est des gros chantiers comme ça, on interdit complètement la circulation des trains. Les bus de remplacement, ce genre de choses, trains supprimés pour travaux, bah c'est ça, c'est qu'on est sur les voies. Et du coup, bah dans ces cas-là, on va préparer, on va revoir les zones, on va regarder les installations qui vont être impactées, etc. Et on va suivre les travaux, vérifier que les températures correspondent, que les modes opératoires sont respectés, et que du coup, bah lorsque les trains vont pouvoir circuler le lendemain, qu'ils puissent circuler à la vitesse qui est demandée et sans risque.
Ouais, donc en fait, ce que tu me dis, c'est genre qu'il y a des gens qui utilisent leur train, je sais pas, leur RERB, vu que t'es à Paris, un jour, le soir, la voie elle est fermée pour cause de travaux, et le lendemain, comme si de rien n'était, ils roulent, mais sur des rails neufs en fait.
C'est ça, et c'est un peu la particularité des chantiers SNCF, c'est que la plupart et heureusement, puisque moi-même je suis utilisateur du réseau ferré, du coup, c'est-à-dire que les travaux sont de nuit tout le temps, enfin la plupart du temps, à moins de fermer la ligne et d'être très contraignant, c'est qu'on travaille la nuit pour pouvoir avoir les meilleures interceptions. Et en soi, ça rend le métier un peu plus compliqué parce que travailler de nuit, c'est assez contrainte. Mais du coup, ça permet de faire circuler le maximum de trains et c'est ce qui est bénéfique.
Justement, je me demandais, est-ce que toi, tu bosses beaucoup la nuit?
Alors, vu que je suis pas mal sur le terrain et je suis dans une mission, enfin, je suis le chantier, je prépare la sécurité, etc. Je fais les phases de nuit entièrement. Donc, du début pour faire le briefing, organisé jusqu'à la fin.
Ok, donc ça fait des nuits, tu commences quand, tu finis quand?
Alors, pour l'encadrement, c'est un peu plus long quand même que pour les équipes, mais ça dépend. Mais en général, il faut arriver avant que l'équipe arrive. Donc, pour 21h-22h, et la restitution, le premier train qui passe. Normalement, il est à peu près vers 5h30, 6h.
Ah ouais, et t'en fais souvent, enfin même de manière générale, quelle proportion de temps tu passes sur le terrain et quelle proportion dans ton bureau?
Alors, j'étais dans une situation qui est un peu particulière au début. Je suis encore en cursus jeune cadre. C'est l'équivalent d'un gradué de programme à la SNCF. C'est pour être à terme habilité aux missions de sécurité du point de vue technique, c'est-à-dire pouvoir assumer à 100% la responsabilité, l'expertise technique, on va dire. Donc du coup, il y a un cursus de formation qui va se terminer en avril. Donc entre les formations, ça représentait avant, je dirais, 2 3 mois. 3-4 mois de nuit et je vais passer à 6-7, peut-être un peu moins.
Ok, donc quand tu dis des mois de nuit, ça veut dire que tu travailles uniquement la nuit pendant une période de temps, c'est ça?
Pendant la durée du chantier, donc en phase amont, je sais pas, un mois avant le chantier, on est 2 jours pour préparer. Et après, pendant la réalisation, ça dépend de la taille du chantier, c'est vraiment variable. Ça peut aller de 2 mois à 4 mois, mouvement un peu moins. Ça peut être quelques semaines, hein. Ça peut être 2 3 semaines de nuit, comme 4 mois ou 2 mois. Enfin, ça c'est très variable. Ça dépend vraiment du chantier.
Ok. Et du coup, enfin, question bête, hein, mais au niveau du rythme de nuit, puisque je crois que c'est la première fois que je parle donc avec un ingé qui bosse la nuit. Comment tu gères, enfin, au niveau fatigue, au niveau rythme et tout, est-ce que c'est galère ou est-ce qu'au contraire c'est intense et t'aimes bien?
J'aime bien. À l'époque de l'INSA, déjà, je me disais que j'étais plus productif de nuit et j'aimais bien réviser de nuit, être de nuit, etc. Mais en réalité, c'est quand même, ça n'a rien à voir, hein. Enfin, on travaille vraiment toute la nuit et du coup, Je regrette bien le temps où je disais ça, mais en réalité, c'est une habitude à prendre et c'est un rythme à prendre. Quand on prend le rythme, c'est plus simple. C'est-à-dire que quand on arrive à décaler ses repas, quand on arrive à décaler sa nuit complète et pas juste une sieste, c'est gérable. Mais le plus dur, c'est le week-end. Le week-end, à moins de faire la fête le samedi, le dimanche, pour rester dans le rythme, c'est très compliqué de dormir de 22h à 7h quand t'as dormi de 6h à 14h pendant une semaine. C'est presque impossible.
Ouais. Et puis j'imagine si t'as de la famille ou un conjoint, une conjointe, ça doit pas être évident non plus. Du coup, cet aspect vie pro, vie perso, il est un peu, c'est pas évident quoi.
Ouais. Et enfin, c'est triste à dire, mais on est à fleur de peau. Enfin, c'est vraiment difficile de faire comprendre aux gens qui nous entourent, qu'on est fatigué parce qu'on a travaillé et que c'est pas, enfin, qu'on le fait pas forcément exprès et que on va avoir tendance à avoir du mal à être entendu et du coup ouais, c'est un peu difficile cette partie-là. Mais on s'y fait hein, et on s'y habitue, on en parle aux gens qui sont autour de nous et ça va mieux.
Sur un autre plan, toi, au niveau de ton travail, donc tu es dans le ferroviaire, tu es dans un moyen de transport assez vert, assez vertueux. Est-ce que l'aspect éthique, que ce soit social ou environnemental, ça a une place dans ton travail? Est-ce que tu travailles dans le ferroviaire aussi pour ça? Voilà, quelle place t'accordes à l'éthique, que ce soit d'un point de vue environnemental, social, même de sécurité, tout ça, dans ton travail?
Alors, pour moi, c'est une place vraiment très importante. Je me suis orienté vers le ferroviaire après un stage en aménagement urbain, le stage de cinquième année en GCU. De base, moi, j'étais en spécialité aménagement urbain. Ce qui me fascinait, c'était construire la ville de demain, etc., etc. Et j'ai été plutôt déçu sur les choix qui étaient apportés vis-à-vis de l'aménagement urbain, de l'aspect très politique, pas assez concret, pas assez spécialisé. C'est-à-dire que le choix du politique était prépondérant, il écrasait tout. S'il voulait la piste cyclable sur le trottoir, c'était sur le trottoir qu'on le faisait et il n'y avait pas vraiment de négociation, il n'y avait pas vraiment d'expertise. Et du coup, ça m'a amené à reconsidérer ce que j'aimais vraiment et du coup l'impact que je pouvais avoir en tant qu'ingénieur. Et du coup, dans le ferroviaire, il y a un impact qui est direct. Là, de plus en plus, ça a le vent en poupe parce que c'est le mode de transport écologique qui semble se détacher. Et donc du coup je retrouvais quelque chose de plus appréciable et voilà.
Eh ben écoute Thomas, merci pour ton intervention. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter avant la fin de cette interview?
Merci à toi, c'est sympa de mettre un petit coup de projecteur sur le monde du ferroviaire.
Et voilà, cet épisode est terminé. Merci encore à toi Thomas pour nous avoir partagé ton expérience. Si les métiers du ferroviaire vous intéressent, restez à l'écoute, un autre épisode sur cette thématique devrait bientôt sortir. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes en cherchant Ingénieur Avenir ou INSA dans votre application de podcast préférée. Ingénieur Avenir est disponible sur Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify et toutes les autres applications de podcast. Ce podcast a été enregistré et réalisé par Léo Pernet-Munier avec l'aide d'Amélie Berthe. Ce podcast est le fruit de la collaboration de la pépinière Alumni INSA Lyon, entité junior d'Alumni INSA Lyon, avec la chaire Ingénieur INSA, philosophe en action. Et pour finir, je vous laisse sur un dernier mot de Thomas sur le labeur des cheminots. Et on se dit à dans 2 semaines pour un nouvel épisode du podcast Ingénieur à venir.
Je sais pas si t'as déjà remarqué, mais souvent on voit on voit pas les gens travailler, on voit pas les cheminots travailler quand on passe en train, et on les voit nous regarder un peu comme des vaches sur le bord de la route. On se dit mais ils travaillent jamais, c'est pas possible. Et en réalité, on n'a pas le droit de travailler quand un train passe, parce que déjà si on est dans les voies et que vous êtes en train de passer avec un train, bah c'est qu'on vient d'annoncer le train et qu'on vient soit de dégager la voie le plus rapidement possible, soit qu'on fait attention à pas qu'il y ait quelque chose une pièce traînante ou quoi que ce soit qui vienne nous taper avec le train. Donc c'est pour ça que les gens sont en train de regarder le train. C'est que ça fait partie du geste métier du cheminot, de lorsqu'un train passe, de regarder qu'il n'ait pas d'anomalie, de regarder parce que on a sans doute dégagé la voie. Et que peut-être la personne qui est là en train de rien faire, bah juste il y a 5 secondes, c'est-à-dire il y a 10 secondes, elle était dans les voies et elle vient de sortir de la voie pour laisser passer le train.